Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h43, merci d'être avec nous. On fait un point sur la presse avec... qu'est-ce qui fait parler aujourd'hui?
Oui, qu'est-ce qui fait causer ce matin dans la revue de presse avec vous, Benjamin Glaise? Alors, beaucoup de journaux qui reviennent sur l'inquiétude qu'il y a autour de la levée du confinement dans une semaine. C'est d'ailleurs notre question du jour aussi sur les réseaux sociaux qu'on verra dans un instant.
Oui, avec pas mal de journaux effectivement qui reviennent. Déconfinement, c'est mal parti, c'est la une de la Dépêche de Midi. Ce n'est pas encore gagné, nous dit Vaucluse matin. De son côté, le Figaro titre le déconfinement du 15 décembre menacé. Les derniers indicateurs épidémiques laissent en effet craindre que les conditions fixées par le chef de l'État ne soient pas remplies à temps. Mmh. Si tout se passait comme prévu, la mi-décembre devait voir un simple couvre-feu remplacer le confinement. Les théâtres et les cinémas auraient dû rouvrir, sauf que pour ça, le président avait fixé deux conditions. On les rappelle, un nombre de nouvelles contaminations sous le seuil des 5000 par jour et moins de 3000 personnes en réanimation. Pour l'heure, on n'y est pas. C'était le double la semaine dernière en ce qui concerne les nouveaux cas positifs quotidiens. La décrue sans même marquer le pas, indique le Figaro, rendant incertaine la perspective d'un déconfinement. L'exemple, par ailleurs, de Thanksgiving aux États-Unis qui a relancé l'épidémie ne présage rien de bon.
Oui, le déconfinement, ce qui s'affiche aussi à la une de Libération.
Oui, avec un jeu de mots pour changer. Défaite de fin d'année. Défaite, vous l'aurez compris, en un seul mot. Mais ce matin, Balibé s'est fait mettre à l'amende. Question jeu de mots, en l'occurrence par le Populaire du Centre. Avec ce titre, deuxième vague à l'âme. Voilà, c'est pas mal du tout. Enfin, plus sobre, avec un point d'interrogation pour la Provence. Noël menacé. La Provence qui pose clairement la question des fêtes de fin d'année sous le régime du confinement.
Oui, et un dossier sur le climat qui a la une des échos. Macron qui défend l'atout nucléaire.
Ben oui, le président qui sera aujourd'hui au Creusot pourrait affirmer l'importance de la filière de l'énergie nucléaire, et ce alors que le gouvernement finalise le projet de loi issu de la Convention citoyenne. Le climat, mais sous un autre angle pour la nouvelle République des Pyrénées, la pluie en plaine, mais la neige en montagne, avec cette photo, deux enfants sur une luche, ça donnerait presque envie. D'immenses cumuls de neige sont attendus dans les prochains jours, y compris en basse altitude après les nouvelles chutes de ce week-end. Et puis, des enfants aussi à la une du Parisien aujourd'hui en France, mais sur un autre sujet, pourquoi nos enfants sont fâchés avec les maths? Bah oui, année après année, le niveau des élèves français en maths baisse. Une enquête internationale publiée ce matin devrait encore une fois confirmer ce constat implacable qui touche d'ailleurs toutes les classes sociales.
Ah oui, absolument. Et puis on termine avec le sport et le PSG qui a la une de l'équipe. Hein. Optique oui. 2021.
Alors je ne sais pas si c'est un jeu de mots, c'est le cas, il est plutôt malheureux. Bon, en tout cas, le PSG qui joue ce soir face à Istanbul Başakşehir en Ligue des Champions, dernier match de poule, une victoire ce soir, eh bien assurerait aux Parisiens la première place du groupe, ce qui serait plus évident finalement pour les huitièmes de finale en février et mars prochain, avec, on l'espère, un adversaire en tout cas pour eux plus facile. Et puis on n'oublie pas bien sûr Rennes qui affronte le FC Séville de son côté.
Oui, merci à vous Benjamin, on continue, on regarde la presse en fait un peu chez vous, hein, et du côté de l'Indépendant à Perpignan avec Pierre Matisse. Pierre Matisse, bonjour Pierre.
Bonjour.
Rédacteur en chef, j'allais dire Pierre Pignon. Voilà, absolument. Pas mal, hein. On vous l'a déjà fait, peut-être. Bon, à la une ce matin de l'Indépendant.
Oui, bon, à la une, dans l'Aude, on revient assez en détail sur la manifestation qu'il y a eu hier à Port-la-Nouvelle.
Oui.
C'était tous les pêcheurs de Méditerranée, hein, ils venaient jusque de Marseille, hein, pour crier leur inquiétude face, pour le coup, pas face à la pandémie, mais face à un projet européen qui s'appelle Westmed et qui vise à réduire de façon drastique les prises en Méditerranée. Alors évidemment, tout ça par une bonne intention, hein, il s'agit de protéger la mer, mais bon, pour les pêcheurs, la facture est douloureuse, et ils sont très inquiets, ils sont défendus ici par la présidente de la région, Carole Delga, la ministre se dit compréhensive, enfin on fait un point complet sur ce dossier qui est toujours à la fois complexe et brûlant pour les pêcheurs d'ici.
Oui, absolument, ouais, bien sûr, on les salue au passage d'ailleurs, l'ensemble des pêcheurs. Donc ça c'est votre dossier à la une. Autre sujet, Pierre.
On revient à Perpignan, il y a une polémique à Perpignan sur les factures d'eau. Figurez-vous que Veolia, donc qui contrôle la distribution d'eau, fait des relevés grâce à des compteurs communicants, un petit peu comme le compteur Linky. Finalement, ça alimente bien des suspicions, et d'autant que quelquefois les factures qui arrivent sont très 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 salées. Ouais. Alors Veolia explique que ce sont des fuites d'eau, des choses comme ça. Mais pour beaucoup d'associations, c'est le fameux compteur communicant qui serait en cause.
Ouais. Merci Pierre Mathis. Donc à lire dans l'Indépendant ce matin. C'est vrai que c'est une préoccupation et que l'on a vu énormément de choses autour de Veolia, des factures d'eau. Alors bien souvent, il y a des fuites et on ne s'en aperçoit pas, malheureusement, et ça douille à la sortie, comme l'on dit. Oui, ouais, merci Pierre Mathis.
8h48, merci d'être avec nous. Le petit déjeuner l'actu ce matin, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Yves de Cardrenne. On va revenir sur pas mal de sujets. Hein. Le recours des clandestins à l'aide médicale qui explose, le gouvernement qui annonce le Beauvau de la sécurité, le déconfinement du 15 décembre. Vous voulez nous en parler, 0826-300-300.
Oui, absolument. Alors, nous recevions Ségolène Royal, on va y revenir tout à l'heure. Elle était notre invitée à 7h40. On a abordé beaucoup de choses, et notamment Alexis Poulain, elle est revenue quand même sur cette incertitude autour du 15 décembre. Est-ce qu'il faut maintenir le confinement, le lever compte tenu de cette interrogation de la barre des 5000, en disant, elle, c'est un peu n'importe quoi. Franchement, les situations sont complètement différentes selon les territoires, et selon elle, il faudrait justement lever le 15 décembre ce déconfinement. Alexis Poulain.
Mais c'est toute la question de cette gestion dans l'improvisation, avec des mesures qu'on ne comprend pas. Enfin, la septuagénaire qui prend une amende alors qu'elle a Alzheimer et qu'elle a mal rempli son certificat d'auto-autorisation pour sortir de chez elle alors qu'elle allait faire ses courses à 800 mètres. Enfin, ce genre de trucs, on ne veut plus les voir ni les entendre. Ouais. Et c'est vrai que... alors après, vous avez les Cassandres ou les devins, hein, Jacques Attali qui promet qu'en juin, tout ça est fini. Karine Lacombe qui dit qu'elle, en septembre, on va retrouver la vie d'avant. Voilà. Donc on voit bien que le vaccin devrait arriver, donc on devrait retrouver un peu un semblant de déconfinement. Mais on n'a pas confiné ce deuxième confinement, n'en était pas un. On a flingué les commerces, ça c'est sûr. On a mis à genoux l'économie européenne pendant que la Chine a repris les exportations, tout va bien. La zone euro est en train de s'effondrer et on a créé une crise économique de grande ampleur avec ces pseudo-confinements qui n'ont fait que mettre à terre des petits commerces, des secteurs entiers de l'économie, et qui n'a rien fait sur le plan sanitaire, puisque la question du confinement pose même question. Le couvre-feu est potentiellement une mesure utile, mais là encore, rien n'est prouvé. Donc, on avance à tâtons. Ouais. Et c'est sûr que des mesures qui finalement n'ont pas de logique les unes avec les autres, des voisins qui font ce qu'ils veulent, la Suisse qui va ouvrir la station, l'Autriche.
On voit bien que c'est compliqué, quoi. Elisabeth Lévy, oui.
C'est un peu normal que la Suisse puisse ouvrir ses stations. À ma connaissance, nous ne gouvernons pas encore, le gouvernement français ne dirige pas encore la Suisse, qui ne fait même pas partie de l'Union européenne. Et excusez-moi, la souveraineté, ça existe. Le gouvernement suisse a le droit de prendre des... on peut comparer, on peut dire que... Non, mais moi, ce qui m'inquiète plus, parce que l'incertitude, il faut quand même être juste, l'incertitude est inhérente à la situation, y compris sur le vaccin. C'est-à-dire que, effectivement, ils ne savent pas, et moi, je préfère quand ils ne savent pas qu'ils nous disent qu'ils ne savent pas. J'ai pas fait de faute, peut-être que c'est...
Il commence à le dire.
Excusez-moi, vous me la pardonnerez. On est mauvais en maths, voilà maintenant qu'on est mauvais en français. En revanche, ce qui m'inquiète, moi, c'est leur peur. C'est l'impression qu'ils prennent des décisions sous l'effet de panique successive. Et je me demande tout de même, parce que ce qu'a dit Ségolène Royal tout à l'heure, donc je la crois, c'est que, effectivement, le nombre de contaminations ne diminuait plus ou remontait, je ne sais plus, mais que du point de vue de l'hôpital, on n'avait pas tellement de pression sur l'hôpital. Il me semblait que c'était ça le critère, plus que le nombre en soi de contaminations. C'est pas la même chose si ce sont des jeunes de 15 ans et des... Voilà. Et dernière chose, peut-être que Yves aura une opinion là-dessus. Est-ce qu'il ne va pas être temps, à un moment, compte tenu du désastre économique, d'en venir à des mesures, disons, sélectives, contre lesquelles, d'ailleurs, je l'avoue, j'étais contre l'an dernier, qui sont le confinement des personnes à risque. Est-ce que ça ne va pas être sur la table à un moment ou à un autre ?
Ah, Yves de Cabrel.
D'abord, je voudrais revenir sur une chose, c'est le climat depuis 48 heures qui veut nous expliquer que les chiffres sont pas bons et que manifestement on va pas déconfiner comme on le voulait le 15 décembre. Et en fait, je pense que il s'agit surtout d'un message pour les fêtes, les fêtes de Noël et du 31. À cause de ce qui s'est passé avec le Thanksgiving, avec Thanksgiving, Thanksgiving, ça a été absolument terrible depuis qu'il y a eu cette transhumance habituelle aux États-Unis. On a vu la pandémie reprendre une accélération foudroyante donc depuis la fin novembre. Et je crois que c'est la grande peur de nos gouvernants. Plus que les chiffres actuels, davantage que les chiffres actuels. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, Elisabeth...
Sélection, effectivement, des personnes, en tout cas les protégées.
Elisabeth sait comme moi, et Alexis encore mieux, que c'est impossible d'édicter que les personnes à risque ou les personnes âgées doivent rester confinées.
Il n'y a pas que les personnes âgées d'ailleurs, hein, même si évidemment ça concerne beaucoup les personnes âgées, et puis parce qu'il y a des personnes à risque qui sont à risque et qui ne le savent pas, parce qu'il y a il y a des réactions en fonction de la génétique de certaines personnes, quoi. On s'est aperçu effectivement de ça.
Vous voulez nous faire peur en plus.
Non, c'est vrai, je ne veux pas en rajouter, mais c'est bon. Et puisque vous souriez, tiens, on va réécouter Ségolène Royal qui, pour expliquer, pour illustrer qu'il y avait une déconnexion du gouvernement par rapport à la réalité, a fait un petit parallèle en s'amusant sur, quand je lui ai posé la question, il va y avoir un Beauvau de la sécurité, c'est ce qui a été annoncé ce matin. Alors elle a dit, ça rime à quoi ça en fait? Écoutez.
Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'adresse du
Ministère. Mais quand vous aviez dit Grenelle de l'environnement, vous et puis d'autres...
Parce que le Grenelle,
avant...
ça a remonté, vous voyez, depuis 68, on a entendu Grenelle, donc Grenelle, c'était plus une adresse. Grenelle, vous voyez, dans l'écho de ce mot, ça voulait dire quelque chose. C'était déjà, d'ailleurs, pas très clair au départ, le Grenelle. Mais vous voyez, dans le fin fond de nos campagnes, vous pensez que les gens Beauvau...
Non, mais elle prend vraiment les gens.
Vous qui est beau, mais, donc, vous voyez, même dans la formulation des choses... On voyait déjà ce matin sur les réseaux sociaux, les gens ne comprenaient pas. Moi, j'aurais dit une assemblée générale, une réunion citoyenne.
Voilà. Bon,
Non, mais franchement, elle prend les gens pour des idiots. Excusez-moi, le fait que le ministère de l'Intérieur ait place Beauvau, je crois que la plupart des Français le savent, surtout avec le nombre de manifs qu'on a. On en entend quand même souvent parler de Beauvau.
Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.
Mais je trouve que c'est scandaleux, en fait, essayer de faire populaire comme ça, en traitant les gens de haut, en les prenant pour des idiots, en faisant croire
Non, elle les traite pas pour des idiots, mais
si les gens, enfin, fond de nos campagnes, ne sauraient pas que place Beauvau, c'est le lieu du ministère de l'Intérieur. Qui est cette dame? Existait par la petite phrase. Et je crois que c'est pas de la grande politique, c'est vraiment pas intéressant, puisque au final, elle le dit elle-même, c'est une question de sémantique. À la fin, appelle ça une grande assemblée, très bien. Mais de là à dire que les gens ne savent pas ce qu'est place Beauvau...
Ouais. Bon, ça vous a fait sourire et en même temps un peu irrité, quoi. Allez, dans un instant, on va continuer le petit déjeuner de l'actualité.
Avec vos appels, 0826 300.
D'ailleurs, je crois qu'il y a Mathieu, mais on va le reprendre dans un instant, en fait, Mathieu, parce qu'on arrive, en fait, au flash de 9h, et puis on y reviendra. Et Mathieu, je crois qu'il veut réagir sur sa situation personnelle, parce que lui est touché aussi sur le tourisme et la baisse, évidemment, de recettes, et il est paralysé, il ne peut plus travailler, entre guillemets, à cause de ça. Et ensuite, sur le budget alloué à l'aide médicale d'État. Alors, avec un chiffre assez surprenant que l'on a appris hier, nous y reviendrons tout à l'heure à 9h. Et puis ensuite, restez là à l'écoute à 9h15, parce que il a quelque chose du professeur Raoult. C'est le docteur Rodolphe Gombert, radiologue.
Atypique.
Qui a révolutionné l'imagerie médicale et qui est allé, en fait, à travers l'image médicale, parce qu'il nous décortique, il coupe le corps en rondelles pour voir évidemment si il est touché par des maladies et autres. Et là, il a fait avec le Covid-19.
Des
et c'est assez
incroyable.
Imagerie assez spectaculaire. Et il sera avec nous tout à l'heure à 9h15,
9h30. Il va nous expliquer comment il a fait. En tout cas, restez avec nous dans un instant, les infos de 9h. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Vous avez envie de parler, bien sûr, de l'actu, 0826-300-300, c'est le moment de nous appeler. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel sont avec nous.
Oui, et on va aborder hein, le budget alloué à l'aide médicale d'État. Donc, 1 milliard, c'est le chiffre qu'on a appris hier, et un quart des migrants, par exemple, viennent en France, notamment parce qu'ils savent qu'ils peuvent bénéficier de soins, en fait, gratuits, et pas forcément des soins urgents. Il y a des soins urgents, mais il y a autre chose. Hein. On sera avec le sénateur du Val-d'Oise, Sébastien Meurant, dans un instant.
Mais avant le quotidien des Français, Mathieu est avec nous de Levallois. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour Patrick, bonjour Cécile.
Bon, alors vous Mathieu, vous voulez réagir plus sur les conséquences économiques hein, du Covid. Vous gérez une agence touristique, c'est ça?
Moi j'ai créé il y a 30 ans, Patrick, à Paris, une agence de guides et d'accompagnateurs pour faire visiter Paris à une clientèle étrangère touristique et ses alentours, puisqu'on est les emmenés jusqu'au bord de la Loire ou le plage du débarquement en Normandie. Et donc depuis le 15 mars, je suis à l'arrêt total, et avec des aides qui ne sont pas au rendez-vous, Patrick, c'est ça, moi, c'est que j'en peux plus, moi, le décalage entre les annonces que j'entends sur vos antennes, le gouvernement, et la réalité que je vis au quotidien pour remplir ces formulaires sur les plateformes, pour obtenir des aides qui sont dérisoires par rapport à la gravité de la situation que je vis, parce qu'il y a deux plans sur assez gravissimes, qui sont le drame psychologique qu'on vit, d'avoir travaillé toute sa vie pendant 30 ans, quasiment 6 jours sur 7, et 12 à 15 heures par jour, à rencontrer donc une clientèle internationale et faire visiter Paris, et se retrouver dans un deux pièces cuisine, à ne plus pouvoir rien faire, qu'à réfléchir sur son avenir, à 50 ans passés, et puis le tsunami financier que je vis, parce que moi, je touche pour l'instant 1 500 € de fonds de solidarité par mois, quand je faisais 30 à 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois et que je pouvais me verser entre 4 et 5 000 euros. Donc c'est le quoi qu'il en coûte du président Macron et aucune société ne sera livrée au péril de la faillite au tout début du premier confinement qui ont été annoncés par le président Macron. Je dis que c'est faux, c'est pas vrai.
Quelle aide vous pourriez avoir, Mathieu? Parce que le problème c'est que vous n'êtes pas fermé forcément, quoi. Vous n'êtes pas contraint de fermer.
Non, je fais partie des établissements qui ne sont pas fermés, mais qui sont fermés.
Paralysés, bien sûr.
C'est ça tout le problème, c'est que moi, mes salariés, ils sont au chômage partiel, donc ils s'en sortent mieux que moi. Ouais. Et moi, en tant que créateur et gérant de ma société, j'ai pris tous les risques. Et tu sais pas, Patrick, moi, tout l'argent que j'ai gagné pendant 30 ans,
j'imagine.
Je l'ai réinvesti dans ma société. Ouais. J'ai tout investi dans ma société. J'ai pas acheté de l'immobilier, j'ai pas acheté des tableaux. Moi, j'ai tout investi dans ma boîte. Ma boîte a été valorisée 250 000 euros il y a 3 ans. Ouais. Aujourd'hui, ça vaut plus rien. Ouais. Et qu'est-ce qui va me rembourser ça? Personne.
Ouais. Et Mathieu, j'avais cru comprendre que pour les indépendants, en fait, comme vous, il y allait y avoir des choses allaient être mise en place. Rien du tout, vous êtes renseigné.
Rien, je vous le dis sur votre antenne. Ouais. Rien du tout, Patrick, absolument rien. Ouais. Pour l'instant, je n'ai touché que 1 500 € par mois. Ouais. C'est la seule chose que j'ai touchée. Moi, j'ai pas voulu faire de PGE, Patrick, parce que m'endetter sur des dettes que j'ai déjà et sur du chiffre d'affaires que je fais pas, j'ai déjà une angoisse permanente au quotidien. Si c'est pas pour me remettre un emprunt sur le dos, pour l'instant, c'est pas possible. Ouais. Moi, j'attendais de l'État qu'il soit à la hauteur de la situation est gravissime. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est quand je vois les images des émeutes, des manifs, des problèmes qu'il y a, même mes clients m'appellent et me disent, Mathieu, qu'est-ce qui se passe à Paris? Je croyais que vous étiez en confinement total, que nous-mêmes on pouvait pas venir visiter la capitale, et je vois qu'il y a des voitures qui brûlent, il y a des magasins qui sont pillés, il y a des bagarres avec les... Comprenez l'image.
C'est vrai que ça donne pas envie de venir. Hein.
Catastrophique.
Mais ça c'est vrai. Merci hein, Mathieu, bon courage à vous, on reprendra des nouvelles, et puis attendez, je vais poser la question à Yves de Cardrel, qui est notre spécialiste en fait économie. Yves, je pensais quand même que pour les indépendants, comme le cas de Mathieu, alors il a les 1 500, ça il le dit en fait, du fonds de solidarité, mais qu'il y allait y avoir autre chose, non? C'était pas envisagé, ça?
Non, malheureusement, il n'y a rien eu de plus. Alors sur le deuxième confinement, dans certains cas, certains indépendants pouvaient avoir 10 000 euros. Et puis, par ailleurs, il y avait une incitation forte pour les propriétaires à faire des moratoires sur les loyers.
Ouais.
Ça concerne...
toutes ces économies qui s'envolent, hein, Mathieu. On le comprend, bien sûr.
Mais c'est ça le problème.
Il y a beaucoup d'exemples comme Mathieu. Hein.
C'est que cette crise, ça va plonger énormément de Français dans une situation épouvantable dans la mesure où c'est à la fois une perte de revenus et une perte de patrimoine.
Non, mais ça c'est vrai. Allez, on va sur en fait l'autre sujet avec Sébastien Meurant, sénateur du Val d'Oise LR, qui est avec nous. Bonjour Sébastien Meurant.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors il y a eu donc ce chiffre, l'aide médicale de l'État qui est réservée aux seuls étrangers plutôt en situation irrégulière en France dépasse le milliard d'euros. Comment expliquer cette nombre du bénéficiaire de l'AME qui a doublé en 15 ans, on estime à plus de 300 000 à peu près, c'est ça, hein. Je donne deux chiffres, mais ce sont deux chiffres un peu balises, non ?
Oui, c'est ça, mais alors c'est pas plutôt en situation irrégulière, ces personnes-là sont complètement en situation irrégulière,
oui.
Le système de l'AME fonctionne...
Non, je dis, Sébastien Meurant, plutôt parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui viennent également en France pour se faire soigner et qui là ne sont pas totalement en situation irrégulière, quoi, c'est pas des... Vous voyez ?
Concernant l'AME, c'est des personnes qui sont en situation régulière. C'est ce qu'on appelle les sans-papiers ou les clandestins.
Oui.
Et là, ce système, en fait, comme il n'y a qu'en France qui fonctionne de cette manière, donc ça fonctionne comme une pompe aspirante pour l'immigration. Et humainement, on comprend bien que les pauvres du Sud veuillent se faire soigner en France. D'ailleurs, il n'y a pas forcément que des pauvres, puisqu'on a des cas également d'Américains qui viennent profiter de ce système français. Et le problème est, c'est qu'aujourd'hui, en pleine crise de Covid, ils deviennent de plus en plus difficiles à faire comprendre aux Français que certains viennent se faire soigner. Il y a des jours réservés dans les hôpitaux pour faire passer donc les clandestins, et ils ont donc en quelque sorte plus de droits que les Français. Et ce nombre augmente sans arrêt, et c'est un des critères qui permet d'expliquer le fait que le nombre de sans-papiers de clandestins augmente en France, contrairement à d'autres pays européens. Ce qu'on appelle un pays de rebond. La France est un pays de rebond. Lorsque vous êtes débouté du droit d'asile, notamment en Allemagne ou ailleurs, eh bien vous venez en France, car en France, eh bien, comme là on parle de la Belgique, mais on peut être plus facilement soigné, plus difficilement expulsé, et ce qui explique le stock de clandestins qui augmente année après année. Et vous avez le nombre de personnes bénéficiant de l'AME permet d'estimer un nombre de clandestins. Et là, c'était Patrick Stefanini qui a sorti un livre récemment, parlait de 600 000 à 900 000 clandestins. Sur des rapports parlementaires, un rapport de 2018 de Rodrigue Coquendo, député LR et Cornu Gentil, dans le seul département du 93, parlait de 100, 150 000 à 400 000 clandestins. Et là, ce sont les chiffres donnés par l'État, notamment par des préfets, sous-préfets du 93. Donc, en élargissant au niveau national, vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter, d'où eh bien, les pauvres personnes que l'on voit, les campements que l'on voit, notamment en métropole et notamment particulièrement en région parisienne.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? L'encadrer, par exemple, pour la réserver vraiment aux soins urgents, comme ça se fait ailleurs dans le monde et en Europe ?
C'est la moindre des choses. Ouais. C'est la première chose, c'est de limiter. Et on voit des maladies, la tuberculose, la gale, qui avaient disparu, qui sont liées évidemment à ça, mais surtout contrôler les frontières et expulser tous les déboutés du droit d'asile.
C'est
la moindre des choses. Sauf qu'aujourd'hui, on ne contrôle pas et ça amène à l'explosion des budgets. Mais le pire, ça amène aux assassinats que l'on peut constater à Nice ou ailleurs.
Oui. Des questions peut-être ou des réflexions. Restez avec nous, sénateur Alexis Poulain, Yves de Cardrel et Elisabeth Lévy. Oui.
Il n'y avait pas déjà eu une réforme de cette aide médicale d'urgence qui avait été dans les tuyaux, parce que s'inspirant des voisins européens où on limite finalement les soins qui rentrent dans le cadre de cette aide médicale d'urgence.
Si, le panier de soins, on appelle ça le panier de soins, il avait été réduit, mais en fait très peu. Et on se distingue encore par ce caractère, je veux dire, open bar des soins à la française. Là, on est vraiment... Didier Léchy, qui vient de sortir un opuscule, le grand dérangement concernant l'immigration, explique... Donc lui, c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui n'est pas suspecté d'être de droite, voire d'extrême droite. Il a été sous-préfet du 93, il est patron de l'OFI aujourd'hui, et il explique très clairement qu'on est le seul pays à faire comme cela avec la Belgique. Encore, on est encore plus généreux que la Belgique. Donc la générosité française, elle n'a pas été limitée. On a fait des effets d'annonce, et on a tout un tas d'associations qui sont des associations très militantes. Et si vous me permettez, pour expliquer un peu le phénomène.
Oui.
C'est que l'État donne de l'argent à des associations qui se retournent contre l'État pour ne pas appliquer les règles de l'État. Un chiffre, deux chiffres.
Oui.
France Terre d'Asile, qui est une association militante. En 1998, il y avait 35 personnes qui travaillaient, 35 équivalents temps plein. En 2020, que je suis allé en début janvier 2020 les contrôler, combien y était-il ? 1100 personnes. 35 personnes, 1100 personnes, et ce n'est pas encore assez. Évidemment, puisqu'on on attire de plus en plus de malheureux de l'autre côté de la rive méditerranée.
Oui, oui, c'est vrai.
Non, mais...
Ouais. Elisabeth Lévy, oui.
Pardon, monsieur le sénateur, vous avez raison, mais vous oubliez un acteur qui sont les médias, à mon avis, parce que je vous rappelle que dès qu'on essaye, conformément d'ailleurs à ce que demande une majorité de Français, de restreindre les entrées en France ou d'accélérer les expulsions des gens qui n'ont pas le droit, eh bien, vous avez les médias qui vous font pleurer dans les chaumières. Et je comprends, ce sont des situations humainement dramatiques, mais si on avait la possibilité de régler toutes les situations humainement dramatiques de ce moment, monde, ça se saurait. Et les médias nous font des violons, et surtout, si vous voulez, c'est les insultes, les populistes, les fascistes, l'Europe. On nous parle encore de l'Europe forteresse.
Ouais.
Si vous voulez, l'Europe est une passoire, la France est une passoire, et on nous explique en permanence que l'Europe est une forteresse. Donc, si vous voulez, et par ailleurs, si vous voulez, cette espèce de régime des bons sentiments, en réalité, il arrive à des situations qui sont dramatiques du point de vue humain et également. Donc ce que je pense, c'est qu'on a quand même un problème de substrat idéologique, c'est-à-dire que l'idée même de la souveraineté nationale, de la préférence nationale, dès que vous avez un passeport, en réalité, vous bénéficiez d'une préférence nationale. Les citoyens français ont des droits en France que les autres n'ont pas. Eh bien, dès que vous parlez de cela, si vous voulez, vous êtes traité de fasciste. Donc c'est quand même... et je dirais que la droite, c'est souvent... Pardon, ça c'est une petite pique pour vous, mais je dirais que la droite a souvent été assez ferme dans les discours et molle du genou dans les actes, hein, confère Nicolas Sarkozy.
Oui, Sébastien Laurent.
Vous avez entièrement raison. La politique de l'émotion, c'est ce qu'on voit s'afficher dans les grands titres des grands médias.
Oui.
Et c'est dramatique parce que la politique, c'est pas ça. C'est la politique de l'intérêt national. Vous avez entièrement raison. Et que la droite ait été faible et n'ait pas agi comme il fallait, c'est une certitude. Oui. Sauf que les chiffres, la démographie, elle est ce qu'elle est. Et là, la situation est encore bien plus grave qu'il y a 10 ans, du temps de Nicolas Sarkozy.
Ouais.
Donc là, soit nous avons un des derniers grands qui vient de disparaître, qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, qui regrettait le regroupement familial comme des plus grandes erreurs. Et surtout, vous avez un livre qui avait été écrit par un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Poniatowski, Michel Poniatowski, que survive la France. Et vous avez tout dans ce livre. Vous avez tout dans ce livre. Que l'âme de la France est en train d'être perdue à cause de la mondialisation et surtout à cause de la société pluriethnique et pluriculturelle que l'on s'acharne au nom de fausses idées et de vrais mensonges à lui imposer. Et vous avez complètement raison. Là, il s'agit de reprendre en main notre avenir, notre souveraineté, parce que sinon, et il parlait de Saint-Barthélemy, ce ministre de l'Intérieur, et ça fait écho à ce que disait Colomb il y a très peu de temps, ce qui fait écho à l'impuissance organisée de cet État, parce que Emmanuel Macron, aujourd'hui, sur les frontières, même si le discours a un peu changé, dans les actes, rien n'a changé.
Ouais.
Et c'est là où les Français doivent absolument se rendre compte. Là, l'attentat de Nice explique tout à fait, en pleine période de confinement, on peut passer de Tunisie à Lampedusa, à l'Italie, en France, à Nice, et commettre des attentats. Il y a le côté santé, côté finance, et le pire de tout ça, il y a le côté sécurité, et les Français s'en rendent compte, parce que l'attentat de Nice a été médiatisé, on l'a oublié, et l'attentat de Samuel Paty et tous les autres. Donc il y a une liaison entre tout ça.
Ouais. Merci en tout cas. Donc faut-il diminuer le budget alloué à l'aide médicale d'État, parce que 1 milliard, effectivement, et ça ne cesse d'exploser. Merci d'avoir été avec nous, Sébastien Meurant, sénateur du Val-d'Oise LR, ainsi qu'Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel. Dans un instant, c'est le pape de l'imagerie médicale. Il fait des choses en fait assez extraordinaires. Il vous coupe en rondelles à travers l'imagerie médicale depuis des années. Et là, il l'a fait aussi à l'occasion, évidemment, du Covid. C'est spectaculaire. Ça permet aussi, évidemment,
d'avancer. De voir des choses qu'on ne voit jamais.
Bien sûr. Et d'avancer. Et si tout le monde le faisait, je pense qu'on détecterait beaucoup plus de maladies auparavant. Là, on peut peut-être pas le faire en fait à
l'échelle. C'est une avancée technologique mais c'est aussi artistique.
Donc il a vu, il a vu le premier ou l'un des parmi les premiers, le Covid tel qu'il est, tel qu'il apparaît dans notre corps. Il sera avec nous dans un instant. C'est le docteur Rodolphe Gombert. Certains le comparent un petit peu au professeur Raoul.
Professeur.
Oui, pourquoi? Parce qu'il est un peu iconoclaste et il a quasiment la même coupe de cheveux. Allez, il sera avec nous. Vous pouvez le regarder en vidéo dans un instant.
Restez avec nous. Et en attendant, on va offrir un petit cadeau ce matin.
Ah oui.
À Patrick, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Bonjour. Oui, on vous entend parfaitement.
On vous entend très bien, parce que nous, nous avons des écouteurs sans fil Yamaha.
Ouais.
Ah oui.
Ah voilà. Bon,
et oui.
Et vous avez, et vous les avez gagnés, mon cher Patrick.
Eh bien, merci beaucoup, hein, c'est super sympa, c'est, ça sera un super cadeau pour mon petit garçon, mon grand garçon de 20 ans.
Ah, ah oui. Bah voilà, très bien. Vous nous appelez d'où exactement? De Toulouse, c'est ça?
De Toulouse, oui, là je suis, oui, sur Toulouse, oui.
Et vous faites quoi dans la vie, Patrick?
Ben, ce que je fais du porte-à-porte en prospection, et c'est compliqué avec le temps.
Aïe,
on en parlait hier.
Prospection sur quoi? Qu'est-ce que...
Pour la rénovation de l'habitat.
Ah bah oui.
Ah oui, non, mais c'est un vrai sujet.
C'est quand même dans l'air du temps. Hein, donc,
C'est un sujet qui intéresse ou pas, Patrick? C'est un sujet qui intéresse quand vous allez frapper aux portes, justement?
Ça dépend, oui, oui. Dans l'ensemble, c'est compliqué en fait.
C'est compliqué. En tout cas, on est ravis de vous offrir ce cadeau ce matin. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, Patrick.
Après 3 ans de RSA, bon, ça fait un an que je fais ça, et bon, là, c'est compliqué avec le froid, la pluie.
On comprend.
Et ben voilà, c'est pour ça qu'on vous offre des cadeaux. Et puis,
je suis très heureux. C'est la deuxième fois que je gagne un peu de temps. J'ai gagné aussi un disque de M pour mon fils qui est fan de Mathieu Chédid.
Ça, c'était avec Yvon Cujus.
Et voilà, j'attends une réponse de ça. Bon, le monsieur m'a dit qu'il allait me reprendre.
Vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Ah bah oui, non, bah attendez, il y a quand même un service. Il y a un service après cadeau. Après cadeau, ça marche. Ne vous inquiétez pas.
Merci de votre fidélité.
J'essaierai de gagner autre chose.
Mais faut en laisser un petit peu pour les autres aussi, quand même.
C'est ça. Il a de la chance.
Oui, vous avez de la chance. Bon, faites un loto pour ce soir aussi.
200 millions ce soir, Patrick.
200 millions.
Et on n'y est pour rien.
Vous m'avez pas donné l'argent, Cécile.
Ah, je vous ai pas donné l'argent, Patrick, faut que je vous en parle.
200 millions d'euros, une grille, et puis voilà. Enfin, je fais pas la pub,
Il faut que je joue alors.
Ouais. Ah, voilà, c'est ça. Bah, si
2,50 €.
Ouais, hein. Si vous voulez gagner, oui, c'est mieux.
Une chance sur 130 millions.
Ouais. Ça va.
Les calculs mathématiques, on va demander ça au docteur Rodolphe Gombert.
En tout cas, Patrick, on vous souhaite le meilleur et on vous embrasse. Passez une belle journée et dans un instant, on vous parle d'imagerie. À tout de suite.